Il se releva avec peine et regagna le banc de pierre cimenté à la muraille qui lui servait à la fois de siège et de lit. Qui aurait pu jamais imaginer qu'il en arriverait là? Sa pensée le reportait constamment vers sa jeunesse, vers l'adolescent qu'il avait été 50 ans plus tôt et qui descendait les pentes de son Jura natal pour courir la grande aventure. Comme tous les cadets de noblesse à cette époque, il avait rêvé d'endosser le long manteau blanc à croix noire qui constituait l'uniforme du temple. Le seul nom de templier évoquait alors l'Orient et l'épopée, les navires aux voiles gonflées cinglant sur des mers toujours bleues, les charges au galop dans des pays de sable, les trésors d'Arabie, les captifs rançonnés, les villes enlevées et pillées, les châteaux forts gigantesques. On racontait même que les templiers avaient des ports secrets d'où ils s'embarquaient pour des continents inconnus. Et Jacques de Molay avait vécu son rêve. Il avait navigué, il avait combattu et habité de grandes forteresses blondes. Il avait marché fièrement dans des rues qui sentaient les épices et l'encens, vêtu du superbe manteau dont les plis tombaient jusqu'à ses éperons d'or. Il s'était élevé dans la hiérarchie de l'ordre plus haut qu'il n'eût jamais osé l'espérer, franchissant toutes les dignités pour être enfin porté par le choix de ses frères à la fonction suprême de grand maître de France et d'outre-mer et au commandement de 15 000 chevaliers. Et tout cela aboutissait à cette cave, cette pourriture, ce dénuement. Peu de destin montrait une si prodigieuse fortune suivie d'un si grand abaissement. Jacques de Molay, à l'aide d'un maillon de sa chaîne, traçait dans le salpêtre du mur de vagues traits qui figuraient les lettres de Jérusalem, lorsqu'il entendit des pas lourds et des bruits d'armes dans l'étroit escalier qui descendait à son cachot. L'angoisse à nouveau l'étreignit, mais cette fois motivée. La porte grinça en s'ouvrant. Molay aperçut derrière le geôlier 4 archers en tunique de cuir et la pique à la main. Leur haleine s'épanouissait, blanche, autour de leur visage. « Nous venons vous chercher, messire, » dit l'un d'eux. Molay se leva sans prononcer un mot. Le geôlier s'approcha, et à grands coups de marteau et de burin, il fit sauter le rivet qui reliait la chaîne au bracelet de fer dans lesquels étaient enfermées les chevilles du prisonnier. Celui-ci serra sur ses épaules décharnées son manteau de gloire, qui n'était plus maintenant qu'une guenille grisâtre. La croix sur l'épaule s'en allait en lambeaux. Dans ce vieillard épuisé, chancelant, qui gravissait les pieds alourdis par les fers, les marches de la tour, il restait encore quelque chose du chef de guerre, qui, de Chypre, commandait à tous les chrétiens d'Orient. « Seigneur, mon Dieu, donnez-moi la force, » murmurait-il intérieurement. « Donnez-moi un peu de force. » Et pour trouver cette force, il se répétait les noms de ses 3 ennemis, Clément, Guillaume, Philippe. La brume emplissait la vaste cour du temple, encapuchonnait les tourelles du mur d'enceinte, se glissait entre les créneaux, ouattait la flèche de l'église de l'ordre. Une 100aine de soldats se tenaient l'arme au pied, entourant un grand chariot ouvert et carré. Par-delà les murailles, on entendait la rumeur de Paris, et parfois le hennissement d'un cheval s'élevait avec une tristesse déchirante. Au milieu de la cour, messire Alain de Pareille, capitaine des archers du roi, l'homme qui assistait à toutes les exécutions, qui accompagnait tous les condamnés vers les jugements et les supplices, marchait à pas lents, le visage fermé par un grand air d'ennui. Ses cheveux couleur d'acier retombaient en mèches courtes sur son front carré. Il portait la cotte de maille, une épée au côté, et tenait son casque au creux du bras. Il se retourna en entendant sortir le grand maître, et celui-ci, l'apercevant, se sentit pâlir, si pâlir lui était encore possible. D'ordinaire, pour les interrogatoires, on ne déployait pas si grand appareil. Il n'y avait ni ce chariot, ni tous ces hommes d'armes. Quelques sergents royaux venaient quérir les accusés pour les passer en barque de l'autre côté de la Seine, le plus souvent à la nuit tombante. « Alors, ces choses jugées ?» demanda Molay au capitaine des archers. « Cela est, messire, » répondit celui-ci. « Et savez-vous, mon fils, » dit Molay après une hésitation, « ce que contient le jugement ?»«
Je l'ignore, messire. J'ai ordre de vous conduire à Notre-Dame pour en entendre lecture. »
Il y eut un silence. Puis Jacques de Molay dit encore
« Quel jour nous trouvons-nous ? »
« Le lundi, après la Saint-Grégoire. »
Ce qui correspondait au 18 mars, le 18 mars 1314.